Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Prisca. Avec son amie Ulrich, elles ont créé le podcast Les enfants du bruit et de l'odeur, ainsi que la librairie en ligne du même nom. Nous allons parler des représentations dans les supports culturels, notamment dans la littérature jeunesse. Quels stéréotypes et quels préjugés ces supports peuvent véhiculer? L'importance de prendre en considération qui crée ces supports et l'impact de ces représentations sur les enfants racisés comme sur les enfants blancs. Nous essaierons aussi d'échanger sur comment nous, les parents, adultes, pouvons accompagner les enfants face à ces différents supports. Comme d'habitude, j'ai laissé mes questions un petit peu brutes, ainsi vous pourrez voir que parfois je peux être maladroit, parfois naïf, et je remercie Prisca d'avoir pris le temps d'expliciter tout un tas d'éléments afin de me permettre aussi de cheminer pendant cet épisode. Et je vais commencer par laisser la parole à Prisca pour nous présenter justement quel est le projet des enfants du bruit de l'odeur, que ce soit dans le podcast ou dans la librairie en ligne. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Ce qu'on fait en fait sur le podcast tout d'abord, c'est qu'on va parler des problématiques liées aux discriminations, aux préjugés et au racisme que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et les parents racisés rencontrent en fait tout au long de leur parcours scolaire. Ça paraît vaste comme ça, voilà. Mais en réalité, on s'est rendu compte avec Ulrich que quand on était petite, on avait vécu pas mal de racisme à l'école et que ça commençait très tôt, donc dès la scolarité, dès la petite enfance. Et qu'en grandissant, on a vu aussi, après avoir été maman, que nos enfants vivaient exactement les mêmes choses. Et comme on le dit régulièrement, en fait, l'école est le microcosme de la société. Et le racisme ne s'arrête pas aux barrières de l'école. Et surtout qu'on apprend énormément de préjugés. On va dire, on voit énormément d'images au sein des bancs de l'école qui ne sont pas toujours, à notre avantage, on va dire, voilà, et qu'il faudrait déconstruire. Donc voilà, ouais. Donc à partir de là, depuis qu'on est maman, on a décidé qu'on allait, nous intéresser, faire une petite lumière sur ces problématiques-là. Voilà. Concernant la librairie, c'est tout autre chose. C'est un projet qui nous est venu, en fait, au fur et à mesure, parce que là encore, on s'est rendu compte, encore, ça part d'une expérience personnelle, si on se rend compte que nos enfants, on avait très peu de livres, très peu de représentations à leur offrir. Et comme elles adorent lire, comme elles aiment en fait les livres, on s'est dit mais c'est pas normal que tous les livres qu'elles lisent soient en fait toutes les représentations qu'elles ont, tous les super-héros, tous les personnages principaux sont des enfants blancs, on va dire. Ça veut dire qu'il y a personne qui les ressemble dans les livres. Et à chaque fois qu'on avait des livres avec des représentations des personnes racisées ou des enfants noirs ou métis, à chaque fois, c'était des rôles un peu... Il y avait des choses un peu péjoratives, on va dire, et que l'enfant était soit vraiment au troisième plan, soit stéréotypé, comme avec Kirikou, ce genre de choses. Donc, en sachant que c'est vraiment très important dans le développement psychologique, intellectuel, émotionnel de l'enfant, de pouvoir aussi se représenter, en fait. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'ouvrir une librairie en ligne dans laquelle on présente des livres avec beaucoup plus de personnages, des personnages divers, de la diversité, on va dire, et plus de représentations, surtout.
Alors, c'est vrai que ça a l'air d'être un gros enjeu. Moi, qui travaille en librairie, c'est vrai que je ne peux que confirmer l'état des représentations, donc en effet des personnes racisées, mais aussi des fois des stéréotypes de genre dans la littérature jeunesse. Alors en France, on n'a pas de statistiques ethniques, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis. Alors c'est un côté très pratique, parce que comme ça, c'est à vite de relever qu'il y a un problème, donc on peut dire qu'il n'existe pas. Petit point de vue personnel. mais pour autant, les chiffres existent aux États-Unis. Mm-hmm. Tu les as? Est-ce que tu peux nous en parler, nous les donner et nous dire ce que tu en penses, si te plaît?
Alors, on a les chiffres, on va dire, là, j'ai des chiffres, des données qui vont être basées de 2015 à 2019. Mmh. On voit, par exemple, qu'en 2015, c'était 73% des enfants représentés dans les livres étaient des enfants blancs, avec 13% d'animaux, 8% d'afro-descendants, 3% d'asio-descendants, 2% de latinx, et les Premières Nations, donc 1%. Ça a un peu changé depuis 2015. Ça veut dire qu'en 2019, on arrive à 42% d'enfants blancs. Par contre, la différence entre les 73% et les 42% d'enfants blancs sont passés chez les animaux. Donc aujourd'hui, en fait, il y a plus de personnages d'animaux que des personnes racisées dans les livres. On n'a pas fait ce type d'études en France, et je trouve ça assez dommage. Est dommageable parce que on a une espèce de tendance ici en France à pas vouloir, on va dire, regarder le problème en face et surtout regarder son ampleur, parce que quand on parle du, par exemple, du fait en fait qu'il y ait pas de représentation, ça paraît un sujet vague si on ne sait pas chiffrer, si on ne sait pas, on va dire, analyser réellement ce qui s'y passe. Et le fait de ne pas pouvoir faire des statistiques comme ça ne permet pas, en fait, de vraiment voir l'ampleur du problème. Et du coup, si on ne sait pas l'ampleur du problème, on a difficilement la possibilité d'y apporter une solution aussi.
Oui, complètement. Mais c'est exactement ça. Il n'y a pas de problème. Enfin, ne regardons pas. Comme ça, on sait qu'on est sûr qu'on ne verra pas le problème. Mmh. Alors moi, je trouve ça quand même assez dingue de se dire qu'il y a plus de représentations. Si j'ai bien compris, c'est que les animaux sont plus représentés que l'ensemble des personnes racisées.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Dans les livres jeunesse aux États-Unis.
Et là, c'est aux États-Unis, hein, en sachant qu'il y a quand même, par exemple, ce qu'on appelle la discrimination positive.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y a quand même un effort de fait.
Ouais.
Voilà, en France, ça n'existe pas. Et puis après, je vais dire quelque chose qu'on ne m'a pas posé comme question aujourd'hui, mais qu'on me redit souvent, c'est que des fois, il y a des personnes qui vont vous dire « Mais oui, mais en Afrique, est-ce qu'il y a autant de blancs que de personnes noires ?» Alors déjà, il faut savoir que oui, dans les pays africains, il y a beaucoup de représentations de personnes blanches, même dans les dessins, dans les livres et autres. Et puis là, on ne parle pas de personnes africaines, hein, on parle de personnes racisées françaises. C'est comme si on me posait la question, par exemple, de se dire les Africains blancs, on va dire, et puis je sais pas, les Ivoiriens blancs ou les Malgaches blancs, par exemple. Il y en a combien déjà ? Il y a combien de Malgaches blancs à Madagascar ? Et comment sont-ils représentés ? Donc, ne serait-ce que par ce type de questions, parfois, quand je regarde sur les réseaux sociaux ou les personnes qui me parlent, quand on me dit « oui, mais en Afrique », là, on vous parle de Français. On ne vous parle pas de personnes venues du continent africain, ni du continent asiatique. On parle de Français qui sont ici, qui sont nés en France et qui sont représentés nulle part. Et ça permet aussi de véhiculer cette image et cet imaginaire que être Français, c'est blanc, déjà. Et que ceux qui sont représentés sont des enfants blancs, des personnages blancs. Voilà.
Et donc, le fait, en effet, qu'être Français, c'est blanc, alors que la nationalité n'est pas une question de couleur de peau, d'origine ethnique ou autre. Tu soulignes avec cette question, pour le coup, tu soulignes un point qui m'interpelle, parce que j'ai lu dans un article, en l'occurrence chez Slate, que tu parles de la représentation dans les pays d'Afrique, que justement les livres, notamment les manuels scolaires, sont édités par la France dans certains pays d'Afrique et justement ont des représentations encore avec beaucoup de personnes blanches et aussi avec des rapports qui sont problématiques.
Bien sûr. Alors, ça ne se passe pas de la même façon à Madagascar, donc je ne vais pas parler non plus de choses que je ne, que je ne maîtrise pas, mais je sais que pour la Côte d'Ivoire, oui, il y a des livres qui sont des manuels scolaires qui vont être édités en France, bien sûr. Et puis surtout, il y a aussi la question de la langue. Hein. Faut savoir que dans les pays anciennement colonisés par la France, les gens ont dû perdre leur langue, oublier leur langue pour pouvoir adopter en fait le français. Et du coup, c'est que je pense que dans certaines écoles, même pas, en fait, on va même pas aller jusque sur le continent africain. Sachez que à l'île de la Réunion, qui est français, en Guadeloupe, en Martinique, on apprenait les ancêtres, les Gaulois. Juste ça.
Ouais.
On prend pas du tout, en fait, la spécificité des personnes françaises, certes, mais noires, et de se dire que apprendre les volcans d'Auvergne, quand on a un volcan à l'île de la Réunion qui s'appelle le Piton de la Fournaise, qui est en éruption, enfin qui est en éveil, et qui a des éruptions régulièrement, et qu'il est préférable d'apprendre les volcans d'Auvergne qui se trouvent à 10 000 km de là, c'est juste pas normal en fait. Et encore une fois, c'est un regard auto-centré sur l'hexagone, on va dire, et sur la norme blanche. Parce que la Guadeloupe et la Martinique et la Réunion, ils sont français, en fait, les gens. Donc, on pourrait peut-être apprendre et faire des manuels scolaires, ne serait-ce que pour la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion, ou d'autres encore, les ancêtres ne sont pas gaulois, en fait.
C'est quoi l'enjeu pour un enfant racisé ? D'avoir plus de diversité dans les représentations qu'il peut rencontrer, que ce soit dans les livres ou sur d'autres supports ?
Tout simplement, dans l'imaginaire, dans le champ du possible. Je sais pas, toi, par exemple, tu vis ici et que on va dire que tous les livres que tu vas lire, ça va être des enfants noirs, des enfants asiatiques, tu vois, et tous ces gens-là font des choses extraordinaires. Mais toi, tu n'en fais jamais, tu vois. Alors, tu vois jamais aucune personne qui te ressemble, qui va faire des choses extraordinaires, qui va être super-héros. Et les peu de fois où tu vois des personnes qui te ressemblent, soit ils font des bêtises, soit ils sont pas terribles, soit ils sont pas très beaux, ils sont dessinés d'une façon assez moche. Ou alors imagine que tous les blancs que tu rencontres dans la rue soient tous des éboueurs. Tous les blancs que tu rencontres dans la rue, par exemple, ce sont des femmes de ménage, des personnes qui gardent des enfants, qui soient dans le service. Voilà, donc juste retourne-toi cette question si aujourd'hui tu vivais en France et que les personnes qui te ressemblent, n'étaient pas représentées, et deux, avaient des métiers qui étaient socialement, dévalorisés. Voilà. Je commence déjà par te dire ça. Rien que pour que tu puisses imaginer un petit peu ce que ça peut te faire sur toi, et le sentiment que ça peut te donner, et aussi, quelle est ta place dans cette société ? C'est important, parce que on me dit régulièrement, non mais je comprends pas, moi j'ai pas dit des trucs racistes, moi je comprends pas, les parents, les gens autour de moi sont toujours très étonnés quand par exemple leurs enfants ou les gens autour d'eux sortent des choses qui leur paraissent abominables. Mais j'ai envie de dire, mais vous avez pas besoin d'ouvrir la bouche pour ça, en fait, toute la société se charge aujourd'hui de dire où est la place de l'enfant racisé, de l'adulte racisé. Si un enfant racisé n'est représenté nulle part dans un livre, dans un dessin animé, dans une histoire, ça veut dire quoi ? Une société qui l'efface de partout. Et qui lui dit, en plus, dans la réalité, enfin, clairement, tous les jours, quand je marche, même quand je vais dans le train, qui est en train de nettoyer la poubelle dans le train ? Qui passe avec son sac dans le train ? Pour que nous puissions, enfin, que toi, moi, enfin, voilà, puissions, en fait, jeter nos poubelles ? Qui, le matin, à 5h du matin, au niveau des éboueurs que je vois dans les rues ? Qui va faire les ménages ? Qui va aller garder les enfants ? Maintenant, qui a la connaissance ? Qui sont les personnes qui sont censées avoir la connaissance ? Les enseignants, les hommes politiques, les chercheurs, les savants. C'est toujours des images de personnes blanches. Et ceux qui sont dans le service, c'est toujours les images des personnes noires ou racisées. Les corps racisés sont dans le service. Et les autres corps, on va dire, les corps blancs, sont dans l'intellect, dans la création et dans plein de choses. Et du coup, c'est des messages, en fait, qu'on donne à nos enfants. C'est des messages et qu'on donne aussi aux enfants blancs. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans toute la société, quand une personne racisée parle, donne son avis, souvent, c'est dénigré, c'est moqué, c'est victimisation, c'est communautariste. Mais parce qu'en fait, dans tout ce qu'on voit, c'est la parole blanche qui compte. C'est l'imaginaire blanc qui compte. C'est la représentation blanche qui compte. Donc on transmet tout ça à nos enfants, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient racisés. Et en fait, on rejoue des choses de la société, on retransmet des imaginaires coloniaux, hein, clairement, hein, des imaginaires de domination, clairement, en fait, par les représentations que nous offrons aujourd'hui, par les créations que nous faisons aujourd'hui.
Alors, pour le coup, de ce que je comprends, il y a deux choses. Mmh. Il y a un, le fait de ne pas avoir de diversité représentée dans les supports, qui est problématique. Mmh. Et ensuite, il y a la qualité de cette représentation, en tout cas, les messages qu'on y fait passer. Mmh. Tu parlais notamment d'y voir des métiers de service versus des métiers de connaissance ou des situations de pouvoir. Mmh. Moi, j'ai en tête, forcément, je suis né en 83, J'ai regardé le Club Dorothée, j'adorais ça. J'ai forcément en tête, je crois d'ailleurs que c'est un exemple que tu as déjà cité dans un autre podcast, de Dorothée qui joue une scène avec, avec Jackie et Corbier. Désolé pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, où ils sont, où elle est dans une marmite, je crois, entourée de personnes représentées comme personnes noires et représentées africaines, mais on y reviendra après sur l'africaine. Et vraiment, où tout est grossi. J'ai aussi grandi dans une génération qui a connu Michel Leeb comme étant une représentation de l'humour qu'on pouvait avoir sans aucun problème. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Cette dimension de la qualité n'est vraiment pas aussi essentielle en termes de représentation?
Mais en même temps, je me dis... Enfin, bien sûr que c'est essentiel. Mais en même temps, qui font ces représentations? Encore une fois, des personnes blanches. Des personnes blanches, enfin, Dorothée, ce qu'elle représente là, ce qu'elle montre là, c'est son imaginaire en tant que femme blanche, les gens qui produisent cette émission. C'est leur imaginaire de la personne noire en tant que personne blanche. Donc, voilà, c'est des imaginaires coloniaux, en
fait. Coloniaux, hein, complètement. C'est un mot qu'on peut prononcer, c'est pas un gros mot, hein. J'ai pas de problème avec ça.
Non, mais voilà. Donc, en fait, c'est aussi, moi je vois par exemple, quand je te parle de la qualité de la représentation, quand je vois les personnes qui sont caricaturées avec des gros yeux, le côté cannibalisme, parce que c'est ça, hein, ouais, la bouche, enfin tout ça, oui bien sûr, mais c'est pas une personne noire qui reste dessinée comme ça, hein. Clairement pas. Et c'est pour ça que je te dis l'importance de savoir qui, déjà un, tient le stylo, qui crée et comment elle crée. Et c'est pour ça que c'est important aussi que les personnes blanches se questionnent, clairement. Le racisme, c'est aussi un questionnement de comment, en tant que personne blanche, on a pu intégrer tout ça et comment on voit, en fait, les personnes racisées. Moi, personnellement, si je me dessinais, j'irais pas dessiner une paume toute noire devant, parce que je sais très bien, en fait, que ma paume, en fait, elle est pas noire. J'ai pas ce type d'image-là. Quand je vois des livres où, en fait, il n'y a aucune ombre sur un personnage noir, qu'en fait, c'est juste barbouillé, vraiment, hein, voilà, je suis tout de suite, en un quart de seconde, que la personne qui a pu dessiner ce personnage n'est absolument pas noire. Quand je vois des livres où les enfants qui sont perçus en tant qu'asiatiques sont jaunes, je sais très bien que ce n'est pas une personne... asiatique qui va aller se dessiner en jaune, en fait. C'est bien l'imaginaire colonial, en fait, de la personne blanche qui a grandi avec ça. Une personne asiatique, elle sait très bien qu'elle n'est pas jaune.
Ça me rappelle une BD qui porte mon prénom, qui s'appelle Cédric, et que j'adorais beaucoup lire, parce qu'elle portait mon prénom. Et c'est vrai que, si tu veux, maintenant, quand je revois le personnage, j'ai oublié son prénom, d'ailleurs, depuis, mais de la petite fille asiatique, voilà, en fait, pour te dire, c'est vraiment stéréotype, hein, de la tenue à la couleur de peau.
Oui, bien sûr, hein. Chapeau conique,
yeux,
iconique.
Aux yeux.
Oui, voilà,
le
trait.
Les yeux, toujours un trait. Et l'accent.
Oui, c'est ça, toujours.
Et l'accent qui est prononcé, c'est vrai que tu te rends compte que ça entretient. Et ça, chez l'enfant que j'étais, ça implémente vraiment un stéréotype, et c'est là où tu te rends compte, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est que d'un côté, on a des représentations dans les ouvrages, dans les supports qui sont stéréotypés et qui font grandir des adultes qui vont les porter, ces stéréotypes, et les cultiver, parce qu'ils grandissent avec nous. Et d'un autre côté, pour le coup, ça fait des adultes qui sont incapables de les remettre en question.
Mais en fait, la question se poserait moins si déjà... il y aurait plus de personnes, par exemple, dans la création, dans les maisons d'édition, qui soient tout simplement racisées, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est pas mettre une seule personne, mais en fait, on vient toujours au même problème. Ça veut dire que les personnes racisées doivent, c'est ce que je te disais tout à l'heure, aller dans certains postes. Donc nous devons nettoyer la France. Nous devons, voilà. Donc ces milieux de création... c'est du communautariste blanc, on est d'accord. Dans toutes les maisons de production, dans le cinéma, que ce soit dans la maison d'édition, on est bien d'accord que toutes ces personnes qui vont choisir les créations, qui vont, voilà, s'ils ne restent qu'entre blancs, ils ne vont même pas voir le problème, puisqu'ils ont tous vécu avec ces représentations stéréotypées. Et que le questionnement ne se fera pas. C'est comme si tu disais que dans la création... on va dire aujourd'hui, en 2021, bon, c'est pas le meilleur exemple, mais ça fonctionne quand même. C'est que des hommes, on va dire, qui vont créer des choses. Et puis les femmes, elles vont toutes être, je sais pas, à materner. Donc forcément que la création va continuer à faire en sorte que le stéréotype du maternage pour la femme va tout simplement continuer à être véhiculé, et que ces hommes-là, si on leur pose la question, mais attendez, c'est problématique, ils vont pas voir où est le problème, puisqu'ils vont rester entre eux, dans la création, dans tout ce qui est production.
Là, tu parles de la place des personnes racisées dans les milieux de création. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder le documentaire « Où sont les Noirs ?» de Rokhaya Diallo. Mm-hmm. Et je le recommande aux auditeuristes qui voudraient le regarder. C'est, je crois que c'est clair en fait. il faut le regarder. Ouais. Il faut le regarder. Et c'est pas de. On est au-delà des éléments du ressenti ou quoi. C'est extrêmement factuel. Mmh. Mmh. Et je pense qu'il faut ouvrir les yeux et qu'il est de notre responsabilité. Au-delà même de raciser ou pas raciser, mais d'ouvrir les yeux, c'est la réalité qui nous entoure. Et ça, c'est un gros... pour le coup, je pense que c'est un documentaire qui est vraiment très intéressant sur ce sujet-là. Est-ce que, selon toi, on est en 2021, est-ce qu'il y a encore des livres et des collections problématiques contemporaines, récentes, dans la littérature jeunesse, j'entends jeunesse, aujourd'hui, je ne parlerai pas des livres d'Éric Zemmour, mais dans la littérature jeunesse, aujourd'hui.
Ah, mais bien sûr, il y a plein de livres très problématiques... Il y en a eu un qui est sorti il y a très peu de temps, je ne vais pas citer de nom parce que voilà, je n'ai pas envie ni de faire de la pub pour qu'on mette de la lumière dessus, ni de faire un lynchage. La seule chose, c'est qu'on a contacté la maison d'édition avant qu'il sorte, parce que nous, du coup, on est une librairie quand même, donc on reçoit toutes les informations avant, on reçoit les plaquettes. Donc c'est vraiment dommage parce que... on se rend compte que des personnes n'ont pas envie d'écouter et que, encore une fois, n'ont pas envie d'écouter parce que ça dépend vraiment de qui ces personnes ont en face d'eux. Encore une fois, la façon dont on communique avec les gens, c'est aussi des dynamismes de pouvoir. Ça veut dire que mes remontées, moi j'ai vraiment senti que les remontées d'informations n'étaient pas importantes et qui j'étais pour aller oser dire ce genre de choses, puisque ce n'était sûrement pas moi qui avais la connaissance de ce côté-là. Mais bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas mal prise, j'ai juste voulu au moins donner l'information parce que j'entends régulièrement des personnes dire « oui mais on ne savait pas, mais on n'avait personne ». Pourquoi j'ai pas pris une personne noire dans un film où en fait le personnage, je sais pas, Alexandre Dumas est noir, mais on a mis Depardieu, c'est parce qu'on avait sûrement personne de noir en tant qu'acteur. Enfin, je sais pas, bon, je dis vague, je ressors ça juste comme ça.
Je la regarderai celle-là quand même.
Non, mais voilà. Donc, la personne, quand on lui a dit c'est problématique, c'est très raciste. Et on nous a répondu, on nous a renvoyé une autre plaquette avec écrit « Esprit étroit, s'abstenir ». Donc voilà, c'est de se dire, quand on dénonce pour prévenir, hein, tout simplement, pour dire bah, « là, on peut peut-être y réfléchir ensemble », je ne suis pas venue en explosant la porte en disant « mais vous êtes horrible ». On a parlé, avant même de lui pointer ce problème, on a parlé pendant de longues minutes pour essayer de préparer, parce que c'est important de préparer les gens aussi pour pas qu'ils se sentent trop agressés. Donc voilà. Et du coup, quand on lui a dit que le livre était problématique, que les personnes justement asiatiquetées en France risquaient, en fait, des enfants allaient tomber dessus et que c'était clairement raciste, que c'était pas possible. Eh ben, la personne l'a mal prise, en fait, et elle nous a dit que ben non, c'était comme ça, et puis le livre allait sortir, bien sûr, et qu'en fait, c'était plutôt les personnes avec l'esprit étroit qui allaient trouver ça raciste, quoi. Donc les personnes asiatiquetées en France ont l'esprit étroit, sûrement, parce que je l'ai présenté à plusieurs personnes, du coup, et elles ont toutes été choquées, mais clairement choquées par ce livre, voilà. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que quand on relate des choses qui sont clairement racistes et qui sont problématiques, on n'écoute pas les concernés. Ça veut dire que la personne en face, blanche, qui n'expérimente pas le racisme, qui est représentée, qui est considérée comme la norme, ne va même pas se dire que bah, elle n'a pas toujours son avis à donner sur tout, en fait, et qu'elle n'a pas l'expertise de tout. Donc, c'est vraiment important. Je pense que les personnes arrêtent de s'auto-centrer et acceptent aussi de travailler d'égal à égal avec des personnes racisées. Voilà. Et que, je vais faire un petit... mais de se dire, c'est bien beau d'aimer Fatima, Aïssatou, parce qu'elles sont sympas et qu'elles gardent bien nos enfants et que patati patata. Mais en fait, de se dire, je sais pas, Fatima peut très bien travailler dans l'édition, peut-être être sensitivity reader et peut-être peut être créatrice. Et qu'en réalité, par exemple, aujourd'hui, dans tout ce qui est auteur et autrice, moi, je rencontre beaucoup de personnes racisées qui sont en auto-édition, mais parce que les maisons d'édition ne veulent pas d'elles, tout simplement. Et qu'on ne nous dise pas après, non, on n'en trouve pas, parce que les livres, en fait, ils se vendent très bien. Et c'est même des livres que parfois je vends mieux que ceux qui sont en maison d'édition. Et pourtant, elles ne trouvent pas de maison d'édition.
Merci, en tout cas, de les proposer. C'est important. Non, mais ça montre aussi la démarche essentielle et à quel point, là où, comme tu le disais tout à l'heure, là où il y a aussi les lieux de pouvoir dans les éléments de décision, donc là, en l'occurrence, dans l'édition, il y a un gros manque de diversité. Et moi, je reste assez stupéfait que l'erreur a été commise en toute transparence. Mm-hmm. Que l'erreur soit commise, qu'on dise « on a merdé, ok, très bien, pas de problème, désolé. »
Est-ce qu'on
peut faire une réédition ? Mm-hmm. Il y a des livres produits, vendus, à l'occurrence, j'ai jamais vu de livre rappelé par un éditeur, mais en tout cas, dans le cas d'une réédition, on peut améliorer. C'est des choses qui se font sur d'autres questions, notamment sur des questions de santé, ça s'est produit. Mm-hmm. Sur les représentations des appareils génitaux féminins, ça s'est fait. Sur d'autres livres, donc c'est quelque chose qu'on sait faire. Donc en fait, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi ?
On ne demandait même pas tant. Juste déjà commencer une discussion.
Ouais.
Juste ne serait-ce que d'avoir une discussion. On en est encore là, hein. On n'en est même pas... franchement, Cédric, là, tu rêves, là. Enfin, de se dire, je pense que c'est peut-être d'ici 20-30 ans, je ne sais pas. Là, on demande juste ne serait-ce qu'une discussion. En France, on demande déjà une réelle discussion et la prise en compte de la parole. Tout simplement ça, déjà. Si on commençait par là, on pourrait peut-être essayer d'avancer ensuite. Le problème, c'est que la prise en compte de la parole, c'est un truc... qui ne se fait déjà pas, puisque c'est que les personnes racisées aujourd'hui, c'est pas qu'on n'a pas le droit à la parole, c'est que la parole, elle est souvent dénigrée, moquée, vue comme extrême, perçue comme dangereuse, clairement on va dire. Et là, dans ce qu'elle me disait, esprit étroit, s'abstenir ou autre, elle avait aussi peur, en fait, cette personne. On va nous parler de cancel culture et tout ça. Donc voilà. Mais de se dire, la personne a l'impression qu'on est là vraiment pour aller brûler des livres et pour. Et qu'en réalité, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est clairement pour faire avancer la société. Mais que ça soit pour des enfants racisés que pour des enfants blancs. C'est de se dire, comment créer un avenir demain ? Comment créer un autre monde demain ?
Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour les auditeuristes qui nous écoutent avant de partir justement sur l'effet des représentations et sur les enfants blancs. C'est, tu utilises depuis plusieurs fois, depuis le début de l'enregistrement, le mot asiatiqueté. Mm-hmm. C'est un mot que je ne connais pas. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me l'expliquer, s'il te plaît ?
Alors, asiatiqueté, c'est parce que c'est être perçu comme une personne asiatique, on va dire. On te met une étiquette, encore une fois. Donc, mm-hmm. C'est ça. Pour être plus juste, on pourrait dire asio-descendant. Ce serait quelque chose de plus juste. Mais j'insiste sur le mot asiatiqueté parce que, clairement, régulièrement, quand des personnes vont voir une personne asio-descendante, elle va être perçue comme asiatique. Pas française, mais asiatique. Elle va être perçue comme chinoise. Encore plus, tu vois, un raccourci sans aller se dire qu'en fait dans l'Asie il y a plein de pays et que c'est pas juste la Chine. Donc voilà, et c'est vrai que c'est comme le mot blanchité, le concept de blanchité, le fait d'être racisé, tous ces termes, c'est pas pour dire qu'on remet en fait en lumière le terme de race, puisqu'en fait, faut être clair, hein, la race a été inventée quand même par l'esclavage et tout le reste, et que on parle pas de race biologique, hein, On parle tout simplement d'une racialisation, d'être perçu en fait avant tout et par une couleur de peau, et du coup on serait renvoyé à une, à, on va dire, une race sociale. Donc on parle absolument pas de race biologique quand je dis d'une personne qu'elle est racisée ou que voilà.
Tout à fait, ouais.
Donc, c'est pour ça que je fais petite parenthèse. Donc voilà. Et quand je dis d'une personne qu'elle est asiatiquetée, c'est encore une fois perçu comme asiatique.
Oui, parce que l'Asie, c'est pas... Alors, l'Asie, c'est pas que la Chine.
C'est ça.
Et même si on devait parler en termes de je sais pas, de traits physiques...
Il n'y a rien à dire, en fait, parce que du coup...
Non, mais voilà, en Asie, il y a tellement de populations. Et puis même, il y a plein de populations, c'est je veux ça. Dire... est-ce que ça reviendrait à dire que un Indien et une personne chinoise ont la même tête?
Voilà. Et puis, enfin, en fait, encore une fois, c'est assez drôle parce que est-ce que juste une Française et une Française ont la même tête? Enfin,
non.
Voilà.
Donc, non, mais voilà.
C'est
voilà,
ça. C'est de se dire. Voilà. Alors, est-ce qu'une blanche de la voisine à côté et la blanche de l'autre voisine à côté ont la même tête?
Non,
voilà.
Mais voilà.
Donc c'est tout.
Mais c'est moi, je t'amène ça avec peut-être avec de la maladresse. Hein,
mais, ah non, mais c'est pas.
Mais parce que je pense que c'est des choses aussi que nos auditeurs doivent entendre. Et moi, je parle en tant que personne blanche, donc avec potentiellement aussi des maladresses, hein, clairement. Ça me renvoie juste à un autre concept avant de reprendre le fil de notre discussion. L'autre parenthèse aussi que je voulais fermer, c'est ouvrir, c'était un petit peu cette idée comme quoi, voilà, je suis allé en Asie, voilà, au lieu de dire là où je suis allé. Alors, je pense que c'est encore plus parlant qu'on parle de l'Afrique, et ça, c'est une autre parenthèse que je voudrais ouvrir, c'est vraiment le côté de dire, je suis allé en Afrique, comme si l'Afrique, c'était un pays.
Tout à fait. C'est un, voilà. Ça tombe bien parce qu'on fait des posts en ce moment sur ça, sur notre page Instagram, pour pouvoir justement donner des outils aux parents, aux enseignants et aussi aux enfants, on va dire, afin de déconstruire les stéréotypes. Et ça, c'est un des stéréotypes justement qui a été construit depuis pas mal de temps. C'est de se dire que l'Afrique est pas un village, un pays, on va dire. Alors que c'est un continent immense et qu'on a tendance à parler de l'Afrique comme si c'était le pays, en fait. Mais ça fait partie aussi de l'essentialisation des personnes. Le fait de dire les Africains, ça réduit tout de suite. En fait, c'est réducteur, encore une fois. On va créer des... On va réduire l'autre à quelque chose de très global. On va lui enlever son individualité, on va lui enlever son histoire, on va lui enlever, on va dire, sa culture. On va lui enlever énormément de choses dans ce côté, les Noirs, les Africains, et c'est quelque chose qui se fait régulièrement. C'est l'essentialisation. Le continent africain, en réalité, est trois fois plus grand que l'Europe. C'est 30 millions de kilomètres carrés, là où l'Europe serait 10 millions de kilomètres carrés. Le continent africain, ne serait-ce que... Allez, le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie, qui fait 2 millions de kilomètres carrés. La France est considérée, si on enlève la Russie, comme le plus grand pays de l'Union... Enfin, allez, on ne va pas parler d'Europe, mais de l'Union européenne. La France, c'est le plus grand pays. Parce que sinon, il y a l'Ukraine qui fait 600 000 km². La France, c'est 500 000 km². L'Algérie, c'est 2 millions de km².
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y a énormément de choses qui se disent sur l'Afrique qui sont une réelle propagande, en réalité. Donc, le fait de dire l'Afrique comme ça, c'est une façon aussi de grandir l'Europe, qui est... c'est le fait de se permettre de s'auto-centrer, de grandir, d'avoir l'impression, en fait, que c'est plus grand, qu'on est plus grand, en fait, que notre petit monde, là, est beaucoup plus grand, plus vaste qu'il l'est réellement. Et c'est aussi une façon de se créer, de se voir en tant que norme. Vous avez l'Asie aussi qui est très grand. Il y a plein de continents qui sont énormes. Et c'est là où on voit aussi les outils qu'on utilise aujourd'hui à l'école. C'est pour ça que je dis l'imaginaire, la représentation et même le factuel, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, la carte utilisée à l'école est une carte fausse au niveau des représentations, au niveau de la superficie des pays. Ça veut dire que l'Europe est grandie, les États-Unis sont grandis, donc ça montre bien, posé au centre. Alors, les pays, en fait, les continents, l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique sont rapetissis, vraiment. Donc, l'échelle est juste pas bonne. Donc, ça paraît, on a l'impression que l'Europe est centrale et très grande, alors que pas du tout.
Ça c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure, et je trouve ça assez, assez frappant maintenant que, maintenant que j'ai l'info. Une petite question là pour clore cette parenthèse. Est-ce que, à ta connaissance, tu as déjà entendu des personnes afro-descendantes dire qu'elles sont allées en Europe alors qu'elles parlaient de dire qu'elles sont allées en France ou en Angleterre ou...
Non, pas du tout.
Ah, d'accord. Non, mais juste pour que ce soit clair. Donc, merci. Je vais refermer la parenthèse sur ces sujets. Merci d'avoir précisé ces notions parce que c'est vrai que là, on utilise des mots et je veux juste que ça soit le plus clair possible pour tout le monde. Pour revenir sur le sujet des représentations des personnes racisées, avant d'ouvrir la parenthèse, on parlait des enfants blancs. Alors, je vais poser la question d'une manière très... un peu particulière, c'est pour, finalement, c'est quoi l'intérêt pour un enfant blanc d'avoir cette diversité si ce qui existe déjà lui entretient une position sociale et de pouvoir dans le réel qui l'entoure?
Alors, je pense que c'est très important justement parce que je ne sais pas si les personnes se rendent compte, mais tout simplement, sa richesse et sa connaissance, en fait. Moi, quand je vois des personnes... réellement, quand je vois le genre de représentation qu'il y a sur des personnes racisées, je me demande toujours si ces gens ont été enfermés dans une case ou dans un immeuble pendant tant d'années pour écrire ce genre de choses. On est en 2021. Et en fait, pour avoir grandi de cette façon et créé des choses dans des cases comme ça, c'est que l'esprit est aussi formaté, en fait. Et clairement, être, même dans la créativité, si on est enfermé dans quelque chose, dans nos représentations, on ne peut pas créer librement si tout notre imaginaire est formaté. Et il faut aussi se dire que le monde change et que pour un monde... je dirais pas de cohabitation, mais pour que la France fonctionne bien, je pense qu'il est plus que temps de d'élever nos enfants ensemble et de partager des valeurs réellement communes, de faire un partage aussi des connaissances, un partage, on va dire, de la visibilité et du territoire. Parce que je pense clairement qu'en réalité, on n'est pas à nos générations. Les générations qui arrivent ont une réelle soif de liberté, de changement, d'égalité. Et même chez les enfants blancs, en fait. Je vois, quand je discute avec cette génération, toutes ces choses, les codes sociaux sont en train de changer. Que ça soit sur la représentation des femmes, le genre, sur l'image, en fait, les corps, je pense qu'il est important pour nous, parents, déjà d'accepter ce changement, de se dire que peut-être que les choses que nos grands-parents avaient fait avant étaient... peut-être il y avait des choses néfastes, négatives, que nos parents nous ont donné des choses, mais il y avait aussi des choses néfastes et négatives, et que le monde d'aujourd'hui est en train de changer et qu'on ne peut plus continuer ainsi. Et accompagnons-les, peut-être aussi nos enfants, à essayer de trouver d'autres solutions. Et je pense que la solution de ce monde, du monde de demain, elle ne peut pas se faire avec des esprits fermés. Pour pouvoir trouver ces solutions ensemble, nos esprits doivent s'ouvrir. Et nous devons être arrêtés clairement d'être enfermés dans des cases et d'enfermer les autres dans des cases. Donc, pour l'avenir de nos enfants, de cette planète aussi, je pense qu'il est plus qu'important d'arrêter cette propagande et de clairement les aider, les accompagner vers l'ouverture d'esprit, de pouvoir avoir une autre vision et de regarder toute la possibilité qu'il y a autour.
Je te remercie de préciser ça. Alors, des proches disaient l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, donc n'ayez pas peur. et moi, je peux que appuyer ton propos. Donner de la diversité dans les lectures. Il y a peu de ça, il y a peu de temps de ça. Moi, j'en parlais avec chez la nounou, avec une autre maman. On parlait de ça puisque moi, en tout cas, ma fille, elle lit des choses qui ont été commandées chez toi, notamment un livre qu'elle adore et que je veux citer, c'est Fedbor Efkimi,
ouais,
de chez Little African, voilà, qui est vraiment génial et je suis vraiment ravi de ce livre. Et il y a un autre support que j'ai validé qui n'est pas encore utilisé puisqu'elle ne regarde pas spécialement de dessin animé, mais en tout cas qui est prêt. Et donc c'est un dessin animé qui s'appelle Docteur la Peluche.
Oui.
Voilà.
Mes filles l'ont regardé, enfin ma grande l'a regardé petite.
Voilà, que j'ai sélectionné parce que c'est une petite fille racisée dans laquelle ma fille peut potentiellement se projeter, qui est médecin, qui joue le médecin. Sa maman racisée est médecin. Donc ça permet de projeter d'autres images. Et bref, donc on parlait de ça. Et cette maman me posait en toute bonne foi, attention j'insiste, en toute bonne foi la question de me dire « Mais est-ce que tu crois pas que le fait justement de lui fournir des supports où c'est représenté comme ça, c'est pas ça qui va lui apprendre qu'elle est différente ?» Alors, moi, si tu vois, à titre personnel, le premier truc, c'est que ma fille, elle a 2 ans et demi, et sa différence, on lui a déjà mis le nez dedans. Que ce soit dans la famille ou dans d'autres personnes extérieures, on lui a déjà mis le nez dedans. Donc, elle n'a pas besoin d'attendre d'avoir des livres. Et deux, ce qui m'a interpellé, c'est que le fait de parler, d'avoir d'autres supports de représentation, en fait, ça avait été compris, interprété comme « elle n'aura plus que des supports comme ça ».
En fait, moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est de se dire que c'est pas dérangeant que les enfants blancs n'aient que ce support-là. Déjà, en fait, que les enfants blancs n'aient que des supports blancs, c'est pas on se dit pas c'est problématique. Que ta fille puisse avoir le choix, en fait, juste le choix. Que ta fille puisse accéder à la même chose que les autres enfants, ça veut dire être représentée. Ça pourrait causer chez elle des troubles, des traumatismes, et voilà. C'est ça déjà, ça me questionne en fait. Et encore une fois, je pense que c'est un peu normocentré. Enfin, c'est centré sur la blanchité. Encore une fois, que la norme est la blanchité. Clairement, en quoi c'est se sentir différente ? En fait, ça veut dire que toutes les représentations avec une petite fille. Dans un livre avec des cheveux blonds et que s'il y en a une qui est brune et qu'elle lit un livre avec une petite fille avec des cheveux bruns, ça voudrait lui dire à cette petite fille brune qu'elle est différente, c'est ça ? C'est quoi en fait ? Voilà. Donc on devrait faire des livres qu'avec des blonds pour être sûr que les brunes ne se sentent pas différentes ? Enfin, je sais pas.
Je te remercie de le citer comme ça parce qu'en fait ça souligne bien l'absurde de la situation. Donc c'est vrai que c'est des questions. Alors moi j'aurais je vais renvoyer à l'épisode que j'ai pu avoir avec Pila Ntika et Lisa Régoulé sur l'éducation non genrée, où elle justement, je l'ai rejoint totalement, elle préconisait le fait en effet d'avoir potentiellement des supports où il y a d'autres représentations, mais de conserver aussi les supports problématiques, justement pour encourager une lecture critique de nos enfants sur ces sujets-là. Je parle du sexisme, en l'occurrence.
Alors, c'est pas tout à fait pareil parce que en réalité, je pense qu'on a quand même fait, on n'a pas fait le même travail aujourd'hui sur le sexisme et sur le racisme en France. Quand je fais attention, par exemple, aux livres contenant du racisme pour ma fille, pour mes filles, c'est déjà pour ne pas qu'elle se sente agressée. Parce que cette agression, je sais qu'elle est quasi quotidienne. Ça peut être à la boulangerie, ça peut être dans la rue, c'est ce que je disais, des fois on questionne ce qu'elles font là. J'ai même des adultes qui agressent mes filles au parc, qui font des choses. Voilà. Donc en fait, moi, mon but, c'est qu'il y ait le moins d'agressions racistes possibles envers mes enfants. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et je pense que les parents racisés... c'est clairement ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, on a tous envie que nos enfants aient conscience du racisme et vivent leur première expérience de racisme le plus tard possible. Et on a même envie qu'ils ne le vivent jamais, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, on ne peut pas parler... parce que c'est, en plus, c'est quelque chose qui se vit de l'enfance jusqu'à la mort, clairement. Et dans le quotidien, dans les rapports au quotidien, dans plein de petites choses qui pourront, toi, te paraître complètement... voilà. Mais c'est le fait, je te dis, même sortir, aller faire des courses, aller à la poste, faire des... C'est que ça peut te tomber... La réflexion raciste, elle te tombe dessus 10 fois par jour, et à chaque fois, sans jamais que tu t'en rendes compte. Et dans les supports, dans les, voilà, à la télé, à la radio, enfin, t'allumes la radio, t'as 50 milliards de fois en boucle, et voilà, et des choses qui... Mais moi, je ne suis pas pour, en fait, mettre mes enfants face à ce type d'agression consciemment. Parce que le fait d'être représenté comme des singes, par exemple, en tant que petite fille noire, je ne vois pas en quoi, en fait, ça leur ferait du bien d'être face à ça. Je ne vois pas en quoi ça leur ferait du bien, en fait, de savoir que bah, des personnes les perçoivent comme ça et les dessinent comme ça. Et c'est dans le pays où elles vivent et leur propre pays qu'elles sont traitées comme ça. Parce que, voilà... Ça leur fait pas du bien de savoir que leurs copines vont se moquer d'elles par rapport à ça, vont les réduire à, et qu'elles auront jamais... Parce que quand on est une femme, on a quand même cette personnalité. Moi, je suis noire et je suis une femme. Par contre, même dans les milieux de femmes, je suis perçue d'abord en tant que femme noire, enfin, en tant que noire avant d'être femme. Et des fois, parfois même en parlant avec des féministes, elles me disent... Alors, on verra le problème de racisme plus tard, mais, enfin, ou alors on parlera des noirs... Enfin, non, en fait, non, c'est pas ça. C'est clairement pas ça, en fait. C'est des choses qu'on ne choisit pas. Je suis une femme noire. Et parfois, on me voit en tant que noire avant d'être femme, en fait. Voilà. Et justement, par rapport à l'histoire du racisme, on me voit d'ailleurs plus en tant que noire qu'en tant que femme. La preuve, les représentations des femmes dans le féminisme aujourd'hui en France, il faut encore des fois pousser des coups de gueule, on va dire, pour que quand on parle de femmes, les personnes pensent aussi à se dire « Bah oui, en fait, femme, ça peut être aussi une personne racisée. » C'est pas que des personnes blanches. Ah oui, bah si on veut faire un sujet sur le racisme, on va mettre une personne noire, ouais, super. Mais si on veut parler de la féminité, de la maternité, de si, ah ben on va mettre des femmes, quoi. Pas des noirs. Tu vois, c'est ça.
Non, mais complètement.
C'est, donc c'est, voilà. C'est... Donc en fait, c'est quelque chose qui, de toute façon, elles le portent, qu'elles le veuillent ou non. Et qu'on leur impose, en fait. Donc j'ai pas envie, en plus, de... Pas du moins à cet âge-là, peut-être plus tard, bien sûr. Bien sûr que je garde et que si elle tombe dessus par mes gardes, on explique et autres. Mais je préférerais qu'elle ne tombe pas tout de suite dessus, en fait. Parce que je sais aussi les blessures que ça fait en tant que personne de se dire, bon, bah, elles sont françaises, en fait, mes filles aussi. Hein. Et de l'agression que ça peut être pour elles et de la blessure que ça peut être d'être rejetée ou d'être perçue de cette façon-là. Mmh. Voilà.
Merci. Juste pour tous ces sujets-là, moi j'invite les auditeuristes à écouter déjà le podcast Les Enfants des Bruits de l'Odeur, qui est très, enfin moi en tout cas qui m'apporte beaucoup en termes de réflexion sur la façon dont je me suis moi-même construit aussi, mm-hmm. Parce que comme beaucoup d'enfants qui ont grandi en France, j'ai eu des camarades noirs, arabes, asiatiques, tout ce qu'on veut, et j'ai eu des comportements problématiques, et donc ça peut vous inviter à réfléchir. Mmh. Encore une fois, personne ne vous demande de vous flageller, juste voilà, réfléchissons. Non, mais, tu vois,
après, il y a peut-être des gens qui aiment ça, se flageller, je sais pas. Mais qu'est-ce que t'en sais aussi de leur vie quotidienne? Mais peut-être que c'est par rapport à ça, mais par rapport à autre chose, ils aiment juste...
Et l'autre support que je vous recommande, c'est le podcast Kif Taras,
ouais, il est super.
Voilà, qui est extrêmement enrichissant. Voilà, sur ces sujets-là, on a quand même pas mal balayé le sujet. Mm-hmm. J'aimerais ensuite essayer de parler peut-être des solutions qui pourraient être portées, en tout cas celles que toi, tu entrevois et auxquelles tu as pu réfléchir. Ma question, en fait, à plusieurs niveaux. Mm-hmm. Donc, je te laisse les traiter dans l'ordre que tu veux ou tous ensemble. Enfin, voilà, je te laisse comme tu veux. Donc, ces solutions, selon toi, qu'est-ce qu'elles pourraient être sur le plan social et politique, sur le plan individuel dans un foyer et aussi sur le plan privé de la part des maisons d'édition, des libraires, des productions, enfin, des milieux de la création.
Sur le plan social et politique, ça passe de l'urbanisme, ça passe à... Enfin, il y a tellement de choses, en fait... à refaire, ne serait-ce que de parquer des gens comme ça, en fait, tout simplement, dans des lieux où on crée, on va dire, On crée, on va dire, des quartiers, des lieux où c'est que des personnes racisées. On crée, en fait, des écoles en zone où, clairement, on va dire, on sait très bien que les personnes qui vivent là sont des personnes racisées. Les écoles sont faites pour être des écoles professionnelles qui vous mènent vers des filières professionnelles. Donc, à partir de là, en fait, il y a une reproduction aussi de la classe, on va dire. Il y a une reproduction des chemins de vie. Il y a une réelle politique de reproduction des chemins de vie. De temps en temps, bien sûr, on va créer cette école de la chance. On va en laisser passer quelques-uns. Mais structurellement, on voit bien que dans certains quartiers, il y a que des personnes racisées. Et que dans ces quartiers, limite dortoirs, il n'y a pas d'infrastructure pour les enfants. Ça veut dire que nous, corps racisés, nous devons être tenus. Toujours. On ne peut pas circuler librement, c'est ce que je disais. Il n'y a pas d'infrastructure comme des parcs, il n'y a pas d'infrastructure pour que les enfants puissent se promener en sécurité. C'est que des barres d'immeubles, par exemple, un peu loin de tout, et avec des... fait en sorte que les gens s'entassent, ne puissent pas avoir d'intimité, traités comme des animaux. Et toutes ces choses, en fait, sont aussi... imaginer pour faire en sorte que les personnes ne puissent pas s'épanouir intellectuellement, s'épanouir physiquement et s'épanouir dans la mouvance, en fait. Voilà. Donc, ne serait-ce que d'essayer de changer ce genre de choses, ça pourrait être, pour moi, c'est déjà pas mal. Et encore une fois, si toutes les personnes racisées sont menées à aller après la troisième en professionnel, on est bien d'accord que, bien sûr, on n'ira pas dans des maisons d'édition, on ne sera pas des journalistes, on ne pourra pas faire de la création. Si nous sommes faits que pour être, on va dire, au service de la population blanche française, à partir de là, il n'y a pas de possibilité. Donc déjà, au niveau politique, revoir les plans d'urbanisation. Je pense que ça, c'est important. Et on nous parle de communautaristes. Mais clairement, c'est pas nous qui avons créé ces immeubles pour que nous soyons tous regroupés dans certains lieux. C'est déjà problématique, en fait. On n'est pas une partie de la France à cacher, à parquer dans des lieux. Et ça me fait un peu penser à des camps de travail, en réalité. Oui. Donc, dans certaines parties, en fait, dans toutes les villes, on a toutes nos petites banlieues, nos petits quartiers chauds, nos petits, de la plus petite à la plus grande ville de France. Et quand on regarde bien qui y sont parqués, c'est des gens comme moi, comme ma mère, qui sont perçus dangereuses. On est perçus dangereux dans certaines situations, mais c'est nous, les personnes perçues dangereuses, qui sommes dans les villes pour nettoyer et pour les faire marcher. Mais quand on rentre chez nous, on est de nouveau des sauvageons dangereux. Mais quand on sert les personnes, on ne l'est plus.
Donc, on s'est parlé, pour le coup, de la partie politique. Sur le plan individuel, dans un foyer, qu'est-ce que tu penses qui peut être mis en place ? On a donné des pistes, on a déjà donné beaucoup de pistes. Et d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de me dire que les pistes ne seront carrément pas les mêmes, en tout cas, les démarches ne seront pas les mêmes dans un foyer non racisé que dans un foyer avec au moins une partie racisée.
Figure-toi que il y a des personnes, en fait, qui sont racisées, qui vont pas non plus, ou même dans des couples dits mixtes, bizarre comme mot, mais voilà, mixte de quoi. Donc dans des couples où en fait il y a une personne qui serait racisée et l'autre on va dire blanc, là aussi en fait il y a des couples où en fait il y aura pas de plus que ça de questionnement sur comment, on va dire, déconstruire, que ce soit les enfants ou les adultes. Voilà. Donc pour moi, en fait, la première des choses dans un foyer, c'est déjà de voir un petit peu, c'est ce que j'invite toujours les parents à regarder les supports qu'ils ont et qu'ils présentent à leurs enfants. Mais qu'on soit racisé ou non. Parce que c'est ce que je te dis, même moi, il a fallu à un moment que je regarde tous les supports que j'ai ici, à la maison, et que je commence à trier des livres. Et par exemple, avec des enfants blancs, moi, là, j'invite clairement les parents à faire ce que tu disais toi, justement, à essayer de déconstruire ce qui ne va pas dans un livre. En se disant, tu vois, ce livre-là, pourquoi moi, j'estime que qui a des images négatives, des stéréotypes, des préjugés, des choses qui n'ont rien à faire en fait dans un livre. Et pourquoi moi je trouve que c'est pas terrible en fait, voilà. Et là, je pense qu'en tant que parent blanc, il y a un réel rôle à avoir sur l'éducation de nos enfants et comment en fait leur expliquer les préjugés et les stéréotypes. Et aussi, selon les âges, hein, bien sûr, leur expliquer d'où ça vient. Parce que l'histoire est importante. On a beau vouloir l'enterrer, la mettre sous le paillasson, les choses reviennent. Je ne sais pas si vous entendez déjà parler des traumatismes transgénérationnels. Et il y a une histoire de France qui a été commune, aussi bien aux personnes racisées qu'aux personnes blanches. Et c'est une histoire qu'on ne peut pas enterrer comme ça, qu'on doit regarder en face afin qu'elle ne fasse pas plus de dégâts dans les années à venir que si on en parlait tout de suite, on va dire. Donc je pense que c'est important de prendre vraiment l'ampleur des choses, de se renseigner en tant que parent, pas dire n'importe quoi aussi, de prendre des livres, de lire, de se déconstruire en tant que parent pour pouvoir déconstruire nos enfants. Après, je ne dis pas que le parent connaîtra à 100%, mais c'est bien aussi, les enfants, ils nous apprennent des choses. Hein. Des fois, ils nous questionnent et on est là, ah ouais, non mais t'as trop raison, moi je vais aller voir ça.
C'est exactement... mais alors, merci de le dire, parce que moi, je pense que pour se déconstruire et pour le faire personnellement, mm-hmm. et c'est clairement une voie qui est beaucoup plus facile, mm-hmm. Ça passe par les enfants. Quoi. Okay. Les enfants, là-dessus, sont clairement, je mm-hmm. trouve, une vraie source d'inspiration, parce qu'ils sont libres, mm-hmm. naturellement, de tous ces questionnements-là. Ils ne se posent pas les questions mm-hmm. de couleur de peau, pas couleur de peau. Ils les voient, hein. Mm-hmm. Alors, attention, hein. N'allons pas faire croire que les enfants ne voient pas les couleurs, parce qu'en fait, tout le monde les voit, les couleurs. Mmh,
hein, tout à fait.
On voudrait juste faire clore le débat. Ouais. Hein, mais justement, c'est juste qu'en fait, ça ne pose aucun problème. Les enfants n'ont pas de stéréotypes, sauf ceux qu'on leur a mis
dedans.
Oui,
voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Tout à fait.
Mais naturellement, ils sont libres de tout. Quoi.
Voilà, tout à fait.
Sur le plan, et en fait sur le plan privé, quand je dis privé, je parle bien sûr des entreprises, mm-hmm. De la part des maisons d'édition, des librairies, puisque c'est quand même un petit peu la branche dans laquelle tu es, et aussi après dans les milieux de la création, mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?
Je pense que ce serait bien d'ouvrir la conversation, du coup, clairement, et de commencer à regarder les acteurs et les actrices du monde de la littérature, de la création, mais qui serait racisé en fait, parce qu'il y a plein de monde, il y a clairement plein de monde. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas appelés qu'on ne fait jamais appel à eux et qu'on ne demande pas en fait les avis. Nous, clairement, c'est ce que je dis, moi je lis des livres régulièrement, je note, je fais des... Je fais des tableaux de ce qui ne va pas, de ce qui... Voilà. Donc, moi, j'attends la conversation qu'on pourrait avoir ensemble sans aucun problème. J'attends, en fait. Je suis prête à en discuter. Puis, on travaille avec d'autres personnes qui sont prêtes à travailler sur ça. Il y a aucun problème. Le tout, c'est d'accepter d'ouvrir ses portes. Depuis un certain temps, on se dit, oui, avec Black Lives Matter, les choses changent, il y a plus de représentation. En fait, on ne demande pas de coller des affiches de personnes racisées partout ou de personnes noires partout. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un changement interne réel et d'avoir en fait la possibilité pour des personnes racisées d'être dans les postes de création et ne serait-ce que dans les brainstorming, de se dire, en fait, si vous faites sans nous, ça va être problématique. Et si vous faites sans nous... qui vous questionne en fait ? Est-ce que vous avez les... Enfin voilà, c'est juste logique en fait d'intégrer des personnes pour avoir... Et en plus, ça a été prouvé aux États-Unis par exemple que dans les entreprises où il y a le plus de représentation, dans les postes clés et autres, il y a beaucoup plus de réactivité, d'idées, de création en fait. Voilà, c'est en fait la France se passe volontairement d'une partie de sa population. D'une partie de la créativité d'une partie de sa population. Et elle met de côté aussi toute une partie qui, en réalité, est dans l'attente de quelque chose. Mais comment savoir de quoi on est dans... qu'est-ce qu'on attend exactement si, en fait, on n'a pas la conversation, on n'a pas d'échange. Donc, voilà. Et la dernière chose que je voulais ajouter aussi tout à l'heure, c'était par rapport aux écoles. Je trouve ça vraiment très important. Je sais que les enseignants sont débordés. Je sais qu'il y a énormément de problématiques qui se jouent à l'école et que malheureusement, ils sont un peu pris entre plusieurs feux, entre les parents, parce qu'en fait, on vous confie quand même nos enfants et c'est l'avenir, enfin, c'est notre avenir, c'est ce qu'on a de plus cher, moi, personnellement. Et en même temps, y a une politique qui fait que les enseignants ils sont en train de, d'être étranglés, mourir à petit feu sous des lois, sous des réglementations. Et voilà, quoi. Donc, quand je fais le podcast, je parle de l'école parce que c'est un lieu où il y a énormément de problématiques qui se jouent pour des personnes racisées. Et c'est là où, dès la toute petite enfance, on nous inflige, des stéréotypes, des préjugés. Et c'est là aussi où on vit nos premières, vraiment, grosses discriminations et grosses attaques racistes. Mais c'est pas pour jeter la pierre à l'école, c'est surtout pour dire, le constat, il est là, regardez-le, regardez-nous. C'est pas pour dire, vous, enseignants, vous êtes des gens horribles et que c'est quelque chose de... Le racisme est individuel, c'est pas ce qu'on dit. On sait très bien aussi... les outils que vous avez entre les mains, ce n'est pas vous qui les créez. On sait très bien aussi qu'il y a tellement de choses à traiter, il y a tellement de problèmes aujourd'hui à l'école que vous allez vers la priorité, les choses qui vous semblent le plus important. Mais moi, en tant que parent de petite fille racisée, petite fille noire, l'importance pour moi, c'est que ma fille puisse aussi vivre son enfance en tant qu'une petite fille et qu'elle puisse croire en ses rêves. Donc, si on peut travailler main dans la main aussi avec le corps enseignant, c'est quelque chose qu'on propose régulièrement, de proposer des ateliers aux enseignants, de discuter avec les enseignants, de pouvoir communiquer, et d'avoir des échanges. Parce que je pense qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on pourra aussi changer les choses et avancer ensemble. L'échange, l'écoute, c'est important.
Moi, je voudrais juste souligner quand même une chose, c'est que oui, le corps enseignant a des solutions, mais je pense aussi que ça devrait venir d'au-dessus, les solutions, et que la position du gouvernement actuel, plus principalement du ministre Jean-Michel Blanquer, qui vise à nier tout problématique dans l'école en tant qu'institution et de la citer comme un exemple d'égalité sociale, un vecteur d'égalité sociale, ceci est faux. Je tiens juste à rappeler que la dernière étude PISA, d'ailleurs, est au contraire, a souligné le facteur d'inégalité de l'école aujourd'hui. Donc, oui, le corps enseignant peut s'investir, mais je reste convaincu que la solution doit venir d'au-dessus, est politique. Et il faut redonner des moyens à ces enseignants, il faut leur donner du temps, il faut aussi accepter, en effet, qu'on ne sait pas tout et que des volontés privées comme la tienne peuvent être intéressantes, justement, d'intervenir dans les écoles, de proposer des ateliers ou des formations aux enseignants, d'échanger sur le sujet, ça peut être super intéressant.
On fait aussi des ateliers pour les enfants.
Et pour les enfants.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi pour le fait que ce soit aussi politique. Mais en même temps, si on ne se mobilise pas, je pense que la politique, elle ne va pas avancer.
J'entends. Alors, je te rejoins à 1000%. Je te rejoins à 1000%. Merci beaucoup, Prisca, pour cet échange. Je ne peux que encourager les gens qui nous écoutent à aller sur votre site, à écouter le podcast, à écouter les autres supports qu'on a donnés aussi, à découvrir et à s'ouvrir, parce que c'est vraiment quelque chose qui, humainement, est extrêmement enrichissant.
Merci. www.lesenfantsdubruetdeleodeur.com. Je fais la pub aussi, donc, parce que la librairie en ligne, c'est super important. Ça nous permet aussi de soutenir ce qu'on fait. Et en même temps, on se dit, on est content que les personnes croient aussi au projet. Et voilà.
Je mettrai le lien dans la description du podcast.
Parfait.
Merci.
Merci Cédric.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.